Nous suivent puissent en profiter en même temps en direct. On est en direct hein, de toute façon. Yann, j'ai pas pour l'instant d'autres questions. Je crois qu'on a un auditeur, c'est Mike Lécuyer. Voilà, il va falloir s'y faire. Il est tout seul.
Salut,
à nous
Mike.
Écouter. Mike Lécuyer qui nous écoute du côté de la Dordogne, hein, parce que ça fait un moment qu'il a quitté la région parisienne. Vous, vous êtes en région parisienne et vous vous y plaisez bien, même pour faire des concerts.
Bah ouais, ça va. On joue là où on veut bien de nous. Donc
je pose la question parce qu'il y a pas mal de groupes qui m'ont dit mais c'est impossible de jouer à Paris à moins d'accepter de jouer gratos ou même de payer pour jouer. Vous arrivez à vous en débrouiller de tout ça?
Alors, on joue, je vais être honnête, on joue pas à Paris même.
Voilà, c'est la ville de Paris dont je parlais évidemment.
Ouais, la ville de Paris, c'est une vérité. C'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est autonome ou qu'on n'a pas forcément de nom, qu'on n'est pas connu. Même si nous, ça fait longtemps qu'on existe, eh bien... on passe pas sur toutes les radios, on passe pas sur toutes les télés. Maintenant, on se fait une petite réputation bouche à oreille, mais c'est vrai que Paris, c'est pas la ville où on va beaucoup gagner d'argent. On va beaucoup travailler. Nous, on fait quelques dates par an dans des lieux où on a réussi à fédérer un public. Et comme la Chapelle des Lombards, qui a la chance d'être gérée par une super équipe d'organisateurs. D'ailleurs, je les salue au passage parce qu'ils ont eu l'initiative d'enregistrer notre live chez eux.
D'accord.
Ils ont produit le CD, ils sont vraiment bougés, ils sont en train de lancer une collection de live en fait, des artistes qui vont jouer chez eux.
Donc, ah oui, d'accord, oui, c'est un concept pour le.
C'est vraiment des mecs qui se bougent, qui respectent les artistes et qui font les choses très très bien. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue là-bas, c'est blindé. Puis souvent, Paris, pour nous, c'est plus l'occasion de faire un concert promotionnel ou quand on fait une sortie d'album.
Oui, alors c'est ça qui est marrant parce qu'on dit on va pas jouer à Paris parce qu'on gagne pas d'argent. Et puis un musicien, il joue aussi pour gagner de l'argent. Il joue pas que pour le plaisir, rappelons-le. Hein, le charcutier, quand il fait ses saucisses, et il pense pas seulement au sourire de ses clientes, il pense aussi au tiroir caisse qui est derrière.
On réduit pas ça à l'argent, mais effectivement.
Non, mais on réduit pas ça à l'argent, bien entendu, mais ça compte. Et j'ai envie de dire, Paris, c'est l'endroit où on peut pas jouer en étant super bien payé. Par contre, c'est l'endroit où il faut être vu. Il y a quand même un paradoxe. Les gens vont louer, les groupes vont louer le New Morning plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Ils vont essayer de bourrer avec deux ou trois groupes et puis, ça rame pas mal quand même pour le remplir. Mais on y arrive parce que c'est Paris quand même.
Bah ouais, c'est super, super dense.
Et une date parisienne, c'est important pour un groupe. J'ai toujours remarqué ça et je me suis toujours demandé pourquoi. Parce que voilà, il y a des tas de concerts qui se passent ailleurs et qui sont... largement aussi bien en termes de qualité, en termes de fréquentation, en termes de confort scénique, etc. Voilà, je sais pas, je me demandais.
Bah, j'ai pas vraiment d'explication, mais c'est vrai que lorsque Paris, ça reste Paris. On a qu'à le...
D'accord.
Il y a juste à prononcer Paris, ça en jette, quoi.
Ouais, ça
Donc, c'est vrai que quand on dit qu'on fait une date parisienne, bien, ça motive les gens. Il faut pas oublier que c'est super central. À Paris, vu que les gens sont super nombreux sur un petit espace, l'info circule beaucoup plus vite, c'est plus simple de faire du bouche à oreille aussi sur Paris.
Et puis c'est vrai qu'on reste, malgré ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux musiques actuelles et à ce credo-là que vous exploitez pour certains festivals, ça, le blues en lui-même, ça reste une niche musicale et quand on va dans un endroit où il y a beaucoup de monde, forcément il y a mathématiquement plus d'amateurs, ça permet d'espérer du public au concert en tout cas, même si c'est un public qui, je l'ai constaté dans certaines salles, est un peu vieillissant. Il y a un rajeunissement quand même de votre public à vous, les Cotton Bellies.
Ah ouais, sur Paris, en tout cas, il y a vraiment tous les âges.
D'accord, super.
C'est pas spécialement un public de vie. Il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter du blues sur Paris.
Okay.
Heureusement d'ailleurs, Enfin, je dis ça heureusement, oui, parce que...
Il faut que ça se renouvelle.
C'est une musique qui survit, quoi.
De toute façon, vous êtes des musiciens jeunes, hein, toujours jeunes, on est d'accord.
On commence.
Et je dis ça par rapport à moi, toujours. On est toujours le vieux de quelqu'un, tu sais. Et jouer devant un public encore plus jeune que vous, ça doit faire vraiment plaisir.
Ouais, c'est super. Surtout quand il y a des petits loups... qui viennent te voir pour te demander comment on fait, pour faire de la musique, pour en vivre, pour dire qu'ils ont été enchantés, qu'ils viennent te faire signer leur CD. Tu te dis, bah, c'est super, quoi, ça continue en fait. Comme moi, quand j'avais leur âge et que j'allais voir des artistes et que j'avais la banane. Et
les étincelles dans les yeux.
Bah c'est ça, et puis c'est vrai que dans ma classe, bah j'étais un peu le seul à écouter du blues, mais
toi aussi.
Mais j'étais là.
J'étais là, effectivement. On parlait tout à l'heure des États-Unis, on parlait de votre première arrivée à NOLA, c'était en janvier 2017, juste après l'ABC 2017. Rappelons-le, l'ABC, c'est l'International Blues Challenge qui vient de se terminer pour l'édition 2018. Ouais. Il y avait également un représentant français cette année-là, c'était Aurélien Morand de Checkers, mais je crois que ça aurait été aux portes des quarts de finale, si mes souvenirs sont exacts. Qu'est-ce que tu en retires en termes d'expérience de musicien de ce genre de compétition? Ça, c'était véritablement une compétition très très relevée. Hein.
Ouais, bah premièrement, énormément d'humilité tout de suite. Hein.
Ouais.
Parce que de toute façon, quand tu arrives là-bas, t'es vite vite calmé. Parce que ça joue bien dans tous les coins et ça paraît si naturel. En fait, le talent là-bas n'est absolument pas exceptionnel. Il est courant, il est partout, dans tous les bars, dans la rue, il est. C'est du bonheur.
Il n'y a pas de place pour la médiocrité dans un endroit pareil. Enfin, quand je dis un endroit, c'est pas seulement l'ABC, c'est la ville de Memphis, c'est les clubs de blues aux États-Unis dans leur ensemble. Il y en a pour tout le monde, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de mauvais musiciens, ou alors ils jouent chez eux, quoi.
Moi, j'en ai pas vu en tout cas.
Non,
peut-être, j'imagine qu'au sein d'un concours, il y a peut-être des gars qui jouent moins bien, ou j'en sais rien. Moi, personnellement, j'en ai pas croisé. Je me suis pas dit qu'est-ce qu'il fout là celui-là. Mais puis même j'avais pas envie de me dire ça, quoi qu'il en soit. Mais non, j'en ai pas croisé. J'ai vu vraiment que des gens ultra doués qui se faisaient plaisir, mais c'était incroyable. Quand on jouait pas, on naviguait entre les bars et on voyait vraiment. Il y a tellement de concerts dans chaque bar tous les soirs.
Oui.
En fait, il suffit de se balader d'un bar à un autre et on en prend plein les oreilles à chaque fois.
Ça porte un nom en sport, ça s'appelle faire les bars parallèles.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et donc, d'un bar à l'autre, alors du B.B. King au Rambouki Café...
Là, tu trouves un Brésilien qui envoie grave la guitare, ensuite tu vas voir un mec, un groupe de Virginie qui fait un blues un peu plus hip-hop, à l'attitude un peu plus de chanteur de rap, alors qu'ils font un blues, mais très ghetto.
Ouais.
T'as de tout, t'as tous les profils, t'as toutes les énergies. Tu vois un petit gamin australien... qui a 16 piges et qu'on voit du B.B. King avec toutes les tribus du monde.
Uh-huh.
Et voilà, tu vois tous les profils. T'as l'impression d'être dans un film où on a étudié chaque profil avec minutie pour qu'il y ait du rythme. Bah là, c'est juste naturel là-bas.
C'est ce que je remarque en même temps dans tout ce que tu dis, Yann. Je te demande tes impressions par rapport effectivement à cette expérience de l'ABC 2017. Et les choses dont tu me parles, ce sont les autres groupes que tu as vus. Mais jamais tu me parles des Cotton Bellies sur scène. En fait, c'est une forme d'humilité. Mais en même temps,
ouais,
on aimerait bien savoir ce que vous avez ressenti, vous,
ouais,
à l'intérieur.
Nous, du coup, on était super heureux. Hein, forcément, on a joué... En plus, on s'est retrouvé vraiment à notre place là-bas. On a joué les deux premiers soirs dans un bar. Et c'était vraiment cool, en fait. On a tout de suite oublié la compète. Bon, on flippe un peu au début pour le premier morceau, surtout qu'on voit les trois membres du jury en train de bouffer juste devant toi, en tirant un peu la tronche, en disant un peu avec un regard qui te dit qu'ils ne vont pas te faire de cadeaux.
Ouais, ça fait partie du truc. Hein. C'est pas faux, c'est
surtout,
ça.
Voilà, moi, je chante anglais, mais c'est vrai que j'ai pas très confiance en moi pour parler anglais. Donc forcément, beaucoup de pression, mais une fois qu'on était lancé, le public a fait le boulot, quoi. Mmh. Le public, lui, il s'en fout de la compète, il est là pour écouter de la musique. Et ils nous ont mis super bien, tout de suite à l'aise, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose à faire ici. On n'était pas ridicule. Et on s'est mis à l'aise, et puis on a fait ce qu'on devait faire, et on a envoyé ce qu'on devait envoyer, avec l'énergie, avec la sauce, avec les tripes aussi, parce que c'était beaucoup d'appréhension, et ça s'est libéré à ce moment-là.
Mmh.
Et donc, premier soir, deuxième soir, nickel. Et puis, après, on a eu la chance d'être sélectionné en demi-finale. Donc troisième soir au Baby King Club. Là, c'était magnifique. Hein.
Ouais, ça devait être
une scène avec un public à 180 degrés. Et là, on a explosé le truc. On était déjà, le fait de jouer là, on savait qu'on allait s'éclater. Et il se trouve qu'on a particulièrement bien joué ce soir-là. On était très contents de notre prestation. Voilà, la plupart du temps, on a toujours des choses à se dire, machin.
Mmh.
Là, on s'est vraiment dit qu'on n'était pas passé à côté du moment et qu'on avait fait ça à fond, peu importe l'issue.
C'est dans ces cas-là qu'on ne regrette pas d'avoir tout donné, parce que de toute façon, même si les autres se sont avérés meilleurs par les notes du jury, vous n'auriez pas pu faire mieux, donc aucun regret finalement.
Exactement, absolument aucun regret. Puis le petit plus pour nous là-bas, ça a été que on a été embauchés, entre guillemets, par le patron du premier bar dans lequel on a joué pour animer des jam sessions.
Ah oui, d'accord, ouais.
Voilà, parce qu'il a aimé notre fraîcheur, il a aimé notre son, il trouvait qu'on sonnait un peu différent, justement, des groupes de blues américains qui avaient sur place. Mm-hmm. Et je sais pas, il y avait cette French touch qui lui a plu. Et donc voilà, et on a animé des jam sessions. J'avais un pote venu d'Espagne qui parlait très bien anglais, qui s'est improvisé manager, qui allait, qui allait rameuter les autres groupes dans la rue. Venez voir, il y a la jam session avec les Cotton Bellies.
Ouais, belle expérience alors, en tout cas.
Et puis bah du coup là, en fait, jusqu'à 3h du mat, ça y allait, on s'éclatait. Là, il n'y avait plus du tout de compétition. Du coup, on a rencontré tous les autres musiciens.
D'accord.
En partageant, en buffant. Il y a un ancien bassiste de B.B. King qui est venu jouer à la contrebasse avec nous. Il y a quelques pointes qui sont passées, parce que c'est, après ça reste une jam session, comme dans toutes les jams, quoi, ça défile. Mmh. Et nous on a fait ça 3 soirs de suite. Et c'était vraiment cool parce qu'on s'est marré.
Ouais.
C'est vraiment, on avait vraiment vécu le festival à fond, encore plus qu'en compétition, quoi. On a vécu les bons côtés de la musique aussi.
Alors il y avait
et
eu.
Plus de compète.
oui, plus de compète. Il y avait eu donc ce Memphis 2017. Avant, il y avait eu Montréal 2018. Vous avez été confronté par plusieurs fois donc au public américain. Qu'est-ce que tu en retires, toi, en termes d'expérience scénique? Est-ce que ça a changé tes façons de te produire et puis vos façons à vous de vous comporter sur scène? Est-ce que. Non, pas du tout. Le public français égale.
En fait, sans prétention, non. Ça m'a plutôt conforté dans notre démarche, c'est-à-dire que en France on a notre démarche, mais des fois on sait pas trop si on est dans le vrai ou quoi, parce que c'est vrai qu'on joue une musique qui parle pas instinctivement au public français, c'est pas dans notre culture, la culture de l'afterbeat, le groove, la musique américaine, tout ça, c'est vrai que c'est pas à la base, on n'est pas formé à ça. Moi-même, j'ai entendu plus d'accordéon quand j'étais petit que d'harmonica, mais là-bas c'est leur culture, et quand ils nous entendent et rendre hommage un petit peu à toute leur culture, ils sont tout de suite avec nous. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, ce qui nous a tous enchantés là-bas, c'est de voir à quel point notre musique était reçue de manière positive par le public américain, quoi.
D'accord.
On s'est rendu compte que, on s'est même dit que ça leur parlait beaucoup plus ce qu'on faisait qu'au public français, parce qu'il n'y a pas cette frontière à franchir, en fait. Eux, on leur joue quelque chose qu'ils connaissent depuis toujours.
Oui, ça leur parle. Ça, c'est comme si un groupe américain apprenait par cœur une bourrée auvergnate pour aller jouer ça dans un quartier de Clermont-Ferrand.
Le fait qu'ils le reçoivent bien, ça veut dire que quelque part, on le fait bien aussi. Et en fait, c'est ça qui nous a rassurés.
Ouais.
On s'est dit, ça va, on fait pas n'importe quoi. Si les mecs sont contents, c'est que ça marche bien, quoi.
Bon, en même temps, on disait en tout début de l'interview que vous jouiez une musique métissée, et donc par la même, inspirée par beaucoup de couleurs musicales, en majorité issues du blues. Mais il y a un style, il y a une patte Cotton Bellies.
J'espère, en tout cas.
Il y a un son, quoi.
On s'y appelle, on essaye de. Ça nous préoccupe d'avoir notre son, d'essayer de développer une identité. Après, j'ai le son de ma voix qui peut caractériser aussi notre son, mais je pense que l'esprit des compositions, la façon d'appréhender cette musique, et de la mélanger aussi à des influences plus personnelles, ont moins à voir avec le blues, c'est un peu notre signature aussi.
Mmh. Yann Malek, chanteur, leader des Cotton Bellies, interview en direct. Tout à l'heure, tu parlais d'harmonica. Jean-Jacques Milteau a dit l'accordéon, c'est le piano du pauvre, alors je te raconte pas l'harmonica.
Ouais.
Hein, ça, c'était une bonne formule aussi. Par rapport à cet album donc, qui s'appelle Live Session Volume 2, il a suivi Live Session Volume 1. On écoutera en entier, on le fait déjà depuis le début de l'interview en filigrane, mais on va écouter en entier l'un des titres qui s'appelle Rainy Road, Walk Song. Et puis j'aimerais bien qu'on revienne juste après, mais ça sera après l'interview, Yann, sur le volume 1 à travers le titre Superstition. Tu peux nous parler de ce morceau-là?
Ouais, clairement. Hein. Alors Superstition, c'est un trip qu'on avait en répète. Tout le monde connaît la chanson, enfin beaucoup de gens connaissent la chanson Superstition, dans les scènes ouvertes. Dans le milieu des musiciens, c'est une chanson qui est ultra reprise et connue.
Mmh.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, on était en répète, en acoustique, et puis quelqu'un se met à gratter. Enfin, je me mets à gratter cet accord mineur, et puis je me mets à chanter Superstition avec une voix caricaturale de vieux cowboy country, un peu pécor, un peu
redneck. Quoi.
Et du coup. Si tu veux, on est parti d'un trip comme ça, donc je lançais cette phrase, et puis Christophe à la basse, il reprenait la phrase avec une voix de cow-boy encore plus aiguë, encore plus nasillarde, puis on rigolait comme ça. Puis à force de la jouer, les autres musiciens se sont greffés à la guitare et on a trouvé qu'il y avait un groove intéressant. Et puis on s'est dit que petit à petit, ça pourrait peut-être donner une version. Et c'est ce que ça a fait des beaucoup, enfin ouais, peut-être 3-4 ans plus tard, où on a vraiment cultivé ça. On s'est dit vas-y, on va le faire. Et par contre, avec des choristes, moi je voulais vraiment, ça faisait longtemps que je voulais mettre des chœurs dans Cotton Bellies. Et j'avais des deux frangins, un copain chanteur, et puis Émilie Edou aussi qui est une formidable chanteuse. Mm-hmm. J'entendais déjà leur voix à eux trois. Et donc on a édité ça. Et puis pour rappeler un peu la country, on a appelé notre pote René Mira au banjo. Et voilà, ça a donné ça. On était très heureux de proposer notre version. Parce que nous, on a commencé par la reprise, mais déjà à l'époque, on s'appropriait les titres, on proposait quelque chose de différent. On n'essayait pas de reprendre note par note.
Ouais, c'était
forcément moins bien.
Démarche.
Moi, je suis pas Stevie Wonder, je le serai jamais. Et j'adore trop Stevie Wonder pour prétendre l'imiter, en fait. Ouais. Donc, je suis directement parti sur autre chose que je pouvais faire, peut-être avec ma qualité à moi, mes qualités à moi, et voilà, ça donne notre version.
Très bien. Très très bien résumé, puis ça va donner envie d'écouter, je pense, aux auditeurs. On écoutera d'abord This Day Mambo, hein, Rainy Road, Rock Song, voilà, extrait du volume 2. On reviendra sur le volume 1 juste après. Yann Malek, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de faire, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à l'antenne, en direct?
Simplement, peut-être nos prochaines dates, en fait.
Bien
tout
sûr.
Simplement, je sais que toi, tu aimais en Normandie, essentiellement, mais partout sur Internet. Mais s'il y a des Parisiens qui écoutent l'émission, on jouera à Épinay-sous-Sénart le 10 février pour une nuit du blues carte blanche.
Ouais.
Autour de notre formation. Donc voilà, c'est la prochaine date. Là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué parce qu'on s'est un petit peu enfermé pour composer le nouvel album.
Et je vois qu'il y a des dates qui arrivent sur mars, avril, mai, juin.
Voilà,
ça reprend
doucement. J'invite vraiment les gens à aller voir le site pour consulter les prochaines dates de concert.
Voilà. Cottonbellies.com, cottonbellies.com. Voilà.
C'est ça.
Rendez-vous est pris. Yann, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce 1028e Sweet Home Chicago. Et puis je souhaite plein plein de ventes pour ce EP, hein, ça veut dire Extended Play. C'est un petit album, hein, que tu vends pour une modique somme, j'imagine.
Pour l'instant, il est disponible qu'en digital.
Ah d'accord.
Mais là, on va bientôt éditer un CD en réunissant les deux. Comme ça, on pourra le vendre à nos concerts.
D'accord, voilà. Donc il y aura un best-of volume 1 plus volume 2. Quand je dis best-of, ce sera l'intégralité peut-être des morceaux.
Hein. Ouais, ce sera l'intégralité.
Très bien. Merci à toi, Yann. Et puis merci à Sarah. Et puis à très bientôt sur la route du blues, forcément.
Ça roule. À bientôt.
Au revoir, Yann. Merci beaucoup.
Fly.